pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Les mégabassines, c'est une infrastructure qui s'appuie sur une disparition de la polyculture élevage, l'éradication du bocage, des élevages plein air et de la polyculture élevage ont été remplacés par des grandes cultures pour nourrir des animaux qui sont hors sol. Les animaux ne mangent plus d'herbe, ils mangent uniquement des céréales qui sont produites ailleurs. On est poussé à la rentabilité, la production. Donc les mégabassines, elles interviennent à ce moment-là. C'est quand on a bousillé les ressources en sol et en ouvre. Il y a une érosion de la terre, on a asséché les sols. Ah mince, il n'y a plus assez d'eau, il faut remettre de l'eau. Au lieu de remettre des haies, enlever les drains, au lieu de restaurer par une agriculture plus respectueuse du vivant, au lieu de restaurer les sols, on va plutôt pomper dans les nappes phréatiques, mettre l'eau dans des mégabassines et puis remettre l'eau dans ces sols.
Voilà ce que sont les mégabassines. Une aberration mortifère pour tenter de corriger les problèmes engendrés par des décennies d'une agriculture industrielle qui, partout dans le monde, stérilise, saccage et empoisonne. Mais les mégabassines ne sont qu'un des rouages de ce système agro-industriel.
Les mégabassines, c'est vraiment un des chaînons du complexe agro-industriel. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour que le complexe agro-industriel tombe? Comment on peut s'y prendre, bien le comprendre? Comment on peut s'arracher de nos dépendances à ce complexe? Qu'est-ce que le complexe agro-industriel? On le décrit comme une arme de guerre contre le vivant et contre la paysannerie. Quelque chose qui est écocide, donc qui va s'attaquer à la biodiversité. C'est aussi une arme de guerre contre la paysannerie en France, mais à la fois dans le monde, puisque via nos exportations massives, on met à mal la paysannerie dans plein de pays du monde. Les dirigeants de la FNSEA l'assument. Ils visent une éradication du nombre de paysans en France, concentrer le foncier dans un minimum de personnes qu'ils peuvent contrôler. La majorité des exploitations agricoles en France sont liées en amont et en aval au complexe agro-industriel. Les semenciers, les vendeurs de pesticides, les vendeurs d'engrais, les grands groupes agroalimentaires, des lobbies, des banques, etc. Les paysans, du coup, sont à la fois coincés et à la fois partie prenante du complexe. Il y a dans le monde 1% des fermes agro-industrielles qui occupent 70% des terres agricoles. 1% des fermes agro-industrielles occupent 70% des terres agricoles.
Même s'il s'agit de protéger un commun sans lequel il ne peut pas y avoir de vie, l'eau, volée pour produire des nourritures souvent inutiles, voire empoisonnées, le combat contre les mégabassines n'est donc qu'une lutte parmi d'autres. Contre le béton, contre les poisons, contre le colonialisme, contre l'impérialisme, le capitalisme, le fascisme et même contre le patriarcat, entre autres contre. Salut les amis, c'est JBD, c'est La Voix Off. Vos invités d'aujourd'hui sont Mona et Nico, deux membres des Soulèvements de la Terre et deux des auteuristes d'un livre important intitulé « Première secousse ». Ce bouquin clair, précis, se lit facilement tant c'est bien écrit et surtout intelligent, car ce livre fait aussi appel à notre intelligence. « Première secousse » n'est ni un manifeste dogmatique, ni un livre de recettes révolutionnaires, mais un ensemble d'analyses pertinentes. Et c'est aussi un récit de l'aventure en cours des soulèvements de la Terre, rédigé à plusieurs par certains et certaines de celles et ceux qui vivent cette aventure. Un livre intelligent, mais aussi rédigé avec humilité. Quand les auteuristes ne savent pas encore quoi faire, quoi proposer, ni où aller, et elles écrivent qu'elles ne savent pas, que c'est à nous, collectivement, d'inventer les voies à emprunter. Précisons, la rencontre qui suit a été enregistrée début juillet, juste avant le second tour des élections législatives et une dizaine de jours avant la semaine du village de l'eau dont on va beaucoup vous parler dans nos prochaines émissions. Mais pour l'heure, Nicolas de la librairie Les Temps Sauvages ouvre cette rencontre au bateau ivre à Tours.
Bonsoir à toutes et tous, bienvenue au bateau ivre pour cette soirée donc co-organisée entre le bateau ivre, la librairie Les Temps Sauvages et le collectif local des Soulèvements de la Terre. On accueille ce soir deux des co-auteurices de Première Secousse, le livre signé des Soulèvements de la Terre, publié aux éditions La Fabrique. Ça va être l'occasion à la fois d'une présentation du livre, d'un échange autour de certaines questions que le livre soulève, et puis d'une présentation d'enjeux locaux. Normalement, il y a une personne de la Confédération paysanne qui doit prendre la parole. Je vais laisser les autrices présenter le livre, sa genèse, comment il s'est construit, à quel moment il intervient dans l'histoire de ce mouvement. Voilà.
Bonjour.
Bonjour, moi je m'appelle Nico.
Moi Mona, donc on vient tous les deux de la ZAD de Notre-Dame-des-Landes en Loire-Atlantique. Donc on est impliqués sur ce territoire depuis plusieurs années. Je suis en cours d'installation agricole, éleveuse de vaches maraîchines.
On est tous les deux impliqués dans une coopérative de construction, d'agriculture qui s'est développée après l'abandon du projet d'aéroport. On est pris dans les lieux et les histoires collectives de la ZAD et aussi de fait engagés depuis 3 ans et demi maintenant dans le mouvement des soulèvements de la terre à divers niveaux, que ce soit sur des questions d'organisation des actions, de liens avec les comités locaux, des histoires de communication, de liens avec le mouvement paysan. Bon, déjà, merci vraiment d'être là. On intervient dans un contexte politique chargé et je crois que tout le monde se dit que c'est important de se retrouver en ce moment. Et ça va l'être d'autant plus après dimanche, on va dire, quelle que soit la situation. Voilà, il va falloir continuer à organiser les luttes. Et c'est vrai que quand on a écrit le bouquin, on savait que le contexte politique risquait de se charger de plus en plus. La montée de l'extrême droite, des idéologies fascistes, et qu'est-ce que ça faisait sur les luttes, et qu'est-ce que ça exigeait de notre côté pour le prendre en compte. Mais on ne pensait pas, comme je pense la plupart des gens, que cette menace de l'extrême droite, cette menace fasciste connaîtrait une accélération aussi subite, et forcément, ça décale aussi un peu, pour nous, y compris les perspectives des soulèvements de la terre, ses objectifs, ses modalités d'action, dans une ampleur qu'on n'arrive pas encore tout à fait bien à appréhender. Et puis, voilà, on sait qu'on intervient à un moment où tout le monde retient un peu son souffle, vous, nous, et on le fait quand même parce que, voilà, il faut continuer, et qu'en plus, nous, on était pris avant toute cette séquence électorale dans une nouvelle date de mobilisation d'ampleur, qui est la date de la fin de la saison 7 des soulèvements de la Terre, qui est un retour aux bassines. Le début de la saison 7, c'était une continuation sur les bassines, mais sur un autre territoire, puisqu'on a été, avec 6000 autres personnes, intervenir en Limagne, en Auvergne, sur des projets de bassines, appuyés par les énormes semences Limagrain. Et là, on retourne, j'imagine, peut-être avec pas mal d'entre vous, dans le Poitou, entre le 14 et le 21 juillet. Donc, on est pris en ce moment, enfin, on vous parle depuis un moment, on se dit, bon, comment on réagit à ce qui se passe dans le pays, comment on organise avec d'autres organes une campagne contre Bolloré, et comment, en même temps, on maintient cette mobilisation, on lui donne peut-être un nouveau visage qui prend plus l'allure d'une riposte antifasciste, enfin, qui maintient une question de lutte écologiste et paysanne, et puis, voilà, qui se développe sur cet aspect-là. Et on va vous parler du livre, et on vous parlera des bassines après. Ce qui est hyper bien, c'est que le livre, au début, on a fait des présentations, il venait de sortir, du coup la plupart des gens ne l'avaient pas lu, et là, de ce que j'en comprends, j'imagine que ce n'est pas le cas de vous tous et toutes, mais une partie des gens l'ont lu et même arpenté. Du coup, on va parler, mais en fait, en réalité, nous, on est autant intéressés par ce qu'on va dire, qu'on sait déjà un peu, que par vos retours, qu'on ne connaît pas, y compris vos retours critiques, ou ce qui vous a touché dans le bouquin, ou ce que ça a interrogé, ou comment ça se met en lien avec comment vous vous organisez à Tours, que ce soit au sein du comité des soulèvement à Tours ou dans d'autres perspectives de lutte locale. Et parce qu'on ne peut pas partir du principe que tout le monde connaît un peu les bases du mouvement dans cette salle, je reprends 5 minutes pour resituer les soulèvements de la Terre. Suivant qui raconte, ça change un peu. Du coup, je vous le raconte à ma manière. C'est un mouvement qui est né il y a 3 ans et demi. Par chez nous, dans un moment particulier, dans une séquence politique tout autre, mais qui était une séquence de sortie de confinement, où beaucoup de gens se disaient « Ah, comment on retrouve des formes de résistance, de jonction entre des luttes, comment on sort du confinement ?» Et c'est un moment, il y a 3 ans, on s'est dit « On va tenter fort un peu de l'héritage qu'on avait dans la lutte anti-aéroport, de connexion qui s'était faite à travers les années, autant avec des mouvements paysans, écologistes, histoire des comités locaux de soutien à la ZAD aussi. » En tout cas, on s'est dit « Ah tiens, on a appris pas mal de choses et on a envie de lancer un mouvement qui ait une portée plus nationale. » Ce mouvement, il visait à redonner une foi dans l'action directe collective, dans le fait qu'on ait des mobilisations qui aient un impact direct sur la réalité et qui soient source de joie. Je le dis parce qu'on le dit dans le bouquin que la question de la joie, c'est très important parce qu'on a l'impression, en tout cas nous comme on l'analyse, peut-être vous aussi, c'est que l'extrême droite, c'est sa montée, c'est beaucoup fait d'un sentiment d'impuissance politique, de ressentiment, du sentiment de se dire mais on n'est plus en prise sur les choses, puis tout d'un coup, il y a cette possibilité-là, qui est vraiment la possibilité la plus sombre possible. Et puis, nous, on s'est dit que si on voulait aussi faire rempart au fascisme, que la question de retrouver une prise sur les choses et de retrouver une prise joyeuse sur les choses, c'était tout à fait essentiel. Et que pour ça, il faut avoir l'impression que quand on bouge, quand on se rassemble, quand on agit ensemble, et on a peut-être sauvé une forêt, un bout de terre, on a peut-être empêché une usine qui pollue tout autour d'elle de tourner pendant quelques semaines, puis peut-être ensuite définitivement. Et que ça, c'est très important, surtout quand on a l'impression qu'on a un gouvernement qui nous pousse par ailleurs droit dans le mur. Les enjeux du mouvement, les enjeux qu'on s'est donnés au départ, on s'est dit, bon, alors le champ écologiste et social, il est immense. Souvent, on est comme ça, face à la perspective d'une catastrophe, et on ne sait pas très bien par quelle boule à prendre, parce que la question du CO2, du climat, c'est un peu à la fois immense et à la fois un peu évanescent, et c'est dur de trouver une prise. Et on s'est dit, on va faire retomber l'écologie sur Terre, en tout cas, on va tenter. On s'est dit qu'on se donnait deux objectifs, d'être un peu conséquent et d'avoir des impacts sur deux questions, qui était la question de l'accaparement des terres, sur laquelle Mona va revenir. Donc le fait que des terres paysannes, fertiles, nourricières, soient accaparées par un modèle agro-industriel qui stérilise, intoxique ces terres, fait disparaître les paysans. Et du coup, se dire comment on fait face à cet accaparement d'un côté, et de l'autre côté, sur les enjeux de la terre, la question de la disparition des terres, de leur artificialisation. Le fait non pas qu'elles soient accaparées par un modèle agro-industriel nuisible, mais le fait qu'elle soit tout simplement détruite par un processus permanent de bétonisation. Ça, on s'est dit que ce seraient nos deux enjeux, qu'on ne le prendrait pas seulement depuis une perspective écologiste, qui nous a toujours semblé beaucoup trop étroite par rapport à ce qu'on met sur ces questions-là. Du coup, on a dit qu'on prenait la Terre depuis autant une question effectivement écologiste que social, c'est réapproprier par exemple des moyens de production, ça passe par avoir des espaces pour le faire, notamment des terres et la question coloniale et décoloniale, parce qu'on on peut penser aux terres dans l'Hexagone, mais en fait, en réalité, l'accaparement des terres et leur dégradation, elle est liée à un système colonial. Et on s'est dit, pour agir sur ces plans-là, sur ces enjeux-là, l'accaparement, l'artificialisation, on va se donner trois modalités d'action principales qui sont des modalités qui ne sont pas toujours légales, qui sont des modalités. Alors des fois, des gens disent action directe, désobéissance. Voilà, en tout cas, des formes qui disent on ne va pas se contenter de revendiquer, d'attendre que des gouvernements nous écoutent, parce qu'on sait que si on ne leur met pas la pression de manière plus forte, concrète et directe, ils ne le font pas. Et du coup, on s'est dit que nos modalités d'action, qu'après, là, dans le bouquin, on énonce, on dit c'est des actions directes de masse, on s'est dit on ferait des actions directes de masse de blocage, c'est-à-dire, vous voyez bien, blocage, blocage de l'économie, blocage des flux, blocage d'un chantier, blocage du fonctionnement d'une usine, des occupations, comme ça se passe là, du côté de la 69, d'aller occuper les arbres pour bloquer un chantier, ou d'occuper une usine pour la bloquer, d'occuper des terres pour que des paysans s'installent plutôt qu'une grosse exploitation s'agrandisse. Et puis un terme qui est arrivé en cours de route, qui était le désarmement. En fait, on ne l'avait pas au début, parce qu'on n'avait pas encore mené d'action collective de désarmement. Et puis dans les 4 premiers mois des soulèvements de la terre, on s'est retrouvé à 500-600 sur des centrales à béton Lafarge, qui avait déjà été occupé et bloqué de nombreuses fois, et puis les militants militantes de XR qui menaient un processus d'occupation blocage des industries Lafarge se sont dit bon, en fait ils s'en foutent Lafarge, ils amortissent les coûts, ils mettent ça sous le tapis, là il faut qu'on aille plus loin si on veut avoir un impact. Et quand il y a eu cette occupation avec plusieurs centaines de personnes, les personnes ont commencé à démonter les machines, les malaxeuses, à mettre du sable dans les rouages, et on a appelé ça désarmement, parce qu'on considérait que ces industries, les malaxeuses, les tractopelles, c'est des armes contre la biodiversité, le vivant, mais y compris contre nos vies humaines, et qu'il fallait les désarmer, les neutraliser. Bon, c'était une autre manière, on aurait pu parler de sabotage, mais on se disait que ce terme-là disait quelque chose en plus. On en parle dans le bouquin, parce qu'il nomme et le geste et l'intention, et que voilà, il y a quelque chose d'une portée éthique dans le terme, et puis qui dit qu'on se place finalement dans une forme d'autodéfense, là où on va dire « Ah, vous êtes violent », etc. Enfin non, là, on est en train de désarmer, c'est tout à fait nécessaire de le faire. Et voilà, on est parti sur ces trois modalités-là, occupation, blocage, désarmement. On ne s'est pas du tout dit quand on faisait ça que c'était parce qu'on croyait que c'était les seuls leviers efficaces pour agir. En réalité, quand on se bat sur les bassines, sur la 69, on se bat aux côtés de personnes qui font du travail de terrain, d'enquête, de réunions publiques, de recours légaux, de demandes de moratoire, y compris de rencontres avec des institutions. Et ça, on ne se dit absolument pas que c'est moins bien, mieux, enfin on hiérarchise pas les modalités d'action, mais on s'est dit ça, ces modalités d'action directe de masse, elles manquent, et on sait que quand on mène que les autres, les recours légaux, les simples manifestations, etc., ça ne suffit pas, on le constate, et ce constat il est partagé sur un champ politique de plus en plus large. Donc on s'est dit, nous ce qu'on va porter depuis les soulèvements, c'est ajouter aux modalités existantes, en tout cas pousser des modalités qui soient autres et qui viennent compléter ces autres formes-là.
Du courage, camarade, démontons les bassines. 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 Toujours en avançant, jamais en reculant. Toujours en avançant, jamais en reculant. Du courage, camarade, démontons les bassines. Du courage, camarade, démontons les bassines. Du courage, camarade, démontons les bassines. Du courage, camarade, démontons les bassines.
On est une organisation qui est relativement hybride et dure à définir. Il y a des gens qui disent que les soulèvements de la Terre, c'est un mouvement, d'autres une organisation, d'autres une coalition. Et les trois sont un peu vrais et on n'a pas trop voulu choisir. Parce qu'en réalité, le début des soulèvements, c'était avant que les comités locaux existent. Il y a 3 ans et demi, on a invité, je sais pas moi, des gens d'Attaque, la Confédération Paysanne, des camarades paysans qui étaient dans telle ou telle ferme, des luttes territoriales, des gens qui se battaient contre une extension de carrière Lafarge pour protéger des jardins à Besançon, voilà, tout un tas de luttes locales, des gens qui étaient un peu la jeune génération XR, Youth for Climate, qui s'étaient retrouvés à des dizaines de milliers dans la rue et puis qui n'avaient pas été entendus et qui cherchaient aussi d'autres modalités. Et du coup, bah, on a été une coalition au départ, puis on s'est mis avec toutes ces personnes ensemble pour lancer une série d'actions. Et puis en même temps, à partir de là, naît une forme de mouvement, et puis il y a quelque chose qui se structure, qui est aussi une organisation, au-delà de l'effet coalition et réseau. Et dans ces 3 ans et demi, on a mené une quarantaine d'actions, et on a beaucoup voyagé à travers le pays, autant voilà, du côté d'un glacier dans les Alpes, que stopper des projets de bassines des neiges au même endroit, aider à protéger des jardins ouvriers dans le Doubs, on a été sur des projets de routes divers et variés, on a voyagé à travers le pays, et du coup aussi les soulèvements, c'est, on a essayé d'éviter le côté organe national qui est un peu parachuté. En fait, petit à petit, le mouvement il s'est construit en allant dans des lieux, puis en n'allant pas juste faire une manif, mais à chaque fois avec des processus de rencontre avec des collectifs locaux, et des moments de manif qui étaient aussi pas juste le moment de l'action, mais aussi des moments de fête, de rencontres, de balades, etc., qui fait aussi une carte sensible et des liens sensibles, ce qui est vraiment important pour nous. Et au bilan, sur les 3 ans et demi d'actions directes de masse collective qui se sont menées, bah, y a eu des bras de fer assez emblématiques qu'on a appuyés, je vais dire appuyés, parce que je ne peux pas dire qu'on les ait menés, qu'on les ait suscités. En fait, l'idée des soulèvements, c'est de se dire il y a des luttes locales qui, à des moments, tente un certain nombre de choses, de manifs classiques ou pas, tente un certain nombre d'actions et qu'ils se disent on est à un moment charnière parce qu'il y a des chantiers de bassines qui vont démarrer alors que ça menaçait depuis des années, il y a des tractopelles qui vont débarquer sur des jardins, il y a de la spéculation qui s'accélère dans le Jura, qu'est-ce qu'on fait? Si on reste à notre échelle locale, peut-être ça ne suffit pas, donc est-ce qu'un mouvement national qui aide à ce qui est quelques milliers de personnes de plus, des modalités d'action directe qu'on n'aurait peut-être pas osé assumer seul localement parce que ça prêtait trop le flanc, qui donne plus de visibilité peut-être médiatique, plus d'une composition plus large, est-ce que ça peut permettre à un moment de faire basculer une lutte locale? Et nous, ce qu'on a essayé de penser avec des collectifs, c'était ça, c'était comment à un moment passer des seuils, aider des moments de basculement ou empêcher des moments critiques, comme le moment où telle et telle terre qu'on voudrait protéger va disparaître. Dans ces 3 ans et demi, comme vous savez, il y a eu des luttes qui ont été plus emblématiques, qui sont devenues quasi des bras de fer un peu nationaux, la 69, les bassines, voilà, on parle de la 69, on sait très bien ce qu'il y a derrière la victoire ou pas du côté de la 69, c'est le fait qu'ils continuent à construire d'autres autoroutes. Ce qu'on sait très bien qui se passe du côté des bassines, c'est est-ce qu'ils arrivent à adapter le modèle industriel pour continuer à produire de la même façon, ou est-ce qu'à un moment ça se bloque? Et ça, c'est des victoires qu'on n'a pas remportées, on n'a pas de moratoire encore sur les bassines, la 69 est en train de continuer à se construire, mais on sait que c'est des endroits où en tout cas le rapport de force a réellement augmenté de manière assez conséquente et finalement menaçante pour les intérêts et des gouvernements qui les poussent et des entreprises et les intérêts privés qui les poussent. On a participé à un certain nombre de victoires, qu'on pourrait dire victoires d'étape ou concrètes ou locales, mais c'est hyper important d'avoir ces victoires-là. Ils ont renoncé à étendre la carrière Lafarge contre laquelle nos camarades paysans de Saint-Colomban se battaient. Ils ont renoncé à aller foutre un troisième téléphérique sur le glacier de la Girose ou à faire des bassines des neiges à la Clusaz. Et tout ça, c'est vraiment important parce qu'en fait, ce qui fait qu'on se bat aussi, c'est qu'on sent que des fois, ça marche et que ça inspire d'autres à se dire que ça pourrait marcher. Et ce bouquin, en fait, on l'a écrit à l'issue un peu de ces 3 ans et à un moment charnière parce que vous voulez l'écrire au moment où Gérald Darmanin a dit « Ok, on va dissoudre les soulèvements de la Terre ». Et là, en fait, au lieu d'écrire le bouquin, on s'est retrouvé pris dans un tourbillon auquel vous avez participé et duquel on est arrivé à se sortir ensemble, qui a été le fait que cette tentative de nous faire disparaître a plutôt, au contraire, aidé à ce que le mouvement soit plus visible, se renforce, se démultiplie avec la naissance des comités locaux et qu'on arrive à les mettre en échec. Mais ça a été une bataille de 6 mois pendant laquelle, en fait, on n'a pas pu tellement écrire le bouquin, mais on sentait en même temps que ce moment-là, le retournement de la tentative de dissolution, c'était aussi un moment où finalement le mouvement il allait changer de figure après, ne serait-ce que parce qu'il y avait 150 comités locaux qui étaient nés partout sur le territoire, que les enjeux d'action directe de masse étaient beaucoup plus discutés, la question de l'accaparement, de l'artificialisation, et qu'on ne savait pas quelle serait sa mutation, on ne sait toujours pas exactement, puis en plus, comme je disais, tout est rebouleversé par la séquence politique présente, mais on se dit à ce moment-là, c'est bien d'avoir un bouquin qui soit un moment bilan d'étape. Et je vais finir avant de laisser la parole à ma camarade en donnant un peu quelques intentions du livre. Les soulèvements de la Terre, on ne l'a pas écrit à 150 comités locaux, on ne l'a pas écrit à 180 000 personnes, on dit que c'est le bouquin d'un mouvement. En réalité, on l'a écrit à 15-20 personnes qui ont participé à l'écriture des textes, puis il y en a quelques dizaines d'autres, diverses et variées, qui étaient impliquées dans des commissions du mouvement, donc des commissions légales, communication, aider à l'organisation des actions, des gens qui sont un peu au jour le jour, à dire impliqués dans le mouvement, qui ont participé à le relire, à donner un avis. Et en fait, c'est particulier l'écriture collective, mais ça fait beaucoup grandir. Ça demande des fois de se débarrasser de son ego, mais c'est l'intérêt du collectif, c'est qu'on commence à écrire, puis d'autres reprennent. Mais ce qui est super précieux, c'est qu'on a souvent senti que nos textes devenaient beaucoup plus intelligents, clairs et précis parce qu'ils étaient travaillés et réfléchis et débattus avec d'autres. Ça, c'était super. C'est un livre qu'on est content qu'il soit là parce qu'il aurait dû être interdit. C'est-à-dire qu'au moment de son écriture, la fabrique a dit « Ouais, bah, écrivez-le quand même ». Mais à ce moment-là, le mouvement était devenu illégal. Vous voyez, il a été illégal pendant 2 mois avant que le Conseil d'État rejette la dissolution. Il aurait dû être envoyé au pilon. Et bon, en même temps, notre éditeur s'est dit « Allez, on va tenter et on va le faire quand même ». Bon, finalement, il est là, c'était un bon pari. L'intention du livre, c'était de faire connaître nos hypothèses principales. Donc il y a une partie sur s'attaquer au monstre béton, à l'artificialisation, et c'est une partie aussi sur le désarmement. Ok, on va désarmer l'industrie de l'artificialisation, celle du béton en particulier. Il y a une partie sur démanteler le complexe agro-industriel et reprendre les terres. Et il y a une partie qui dépasse la question des soulèvements, mais qui part de notre expérience et qui s'appelle bâtir des organisations. Et qui touche finalement à la question révolutionnaire. Même s'il y a une partie qui dit dans notre rapport à l'État qu'on a envie de révolution, de changement radical, et en même temps on est dans un contexte politique où on ne va pas non plus mettre de côté des moyens qui pourraient être qualifiés de réformistes par ailleurs, on pourra peut-être y revenir, le rapport réforme-révolution, mais en tout cas on s'est dit qu'on avait besoin, désespérément, mais avec plein d'espoir aussi, de formes d'organisation un peu conséquentes, qui avaient un recul critique assez fort dans les dernières décennies pour des raisons qu'on comprend assez bien sur la question des organisations, la peur de leur rigidification, de leur verticalité, mais que pour un tout un tas d'autres aspects, on avait aussi besoin de ces formes d'organisation. On essaye de discuter un peu de ce que nous, on a vécu dans cette tentative d'organisation et ce qu'on aimerait pousser, projeter comme forme d'organisation, au-delà des soulèvements de la Terre, de formes d'organisation politique, à même de pousser à des changements radicaux. Par ailleurs, nous, on est souvent perçus comme étant du côté du champ de l'écologie, même si, comme je disais, nous, on ne se dit pas écologiste, mais en tout cas, c'est sûr que là où on intervient, on s'est dit qu'il fallait qu'on précise un certain nombre de choses dans le bouquin, qu'on ait des prises de position sur pourquoi on ne se retrouve absolument pas, pourquoi on se met à distance d'une forme d'écologie réactionnaire, essentialiste, une écologie qui est portée par certains mouvements néo-fascistes d'extrême droite aujourd'hui, mais qu'on retrouve aussi communément, y compris au sein de l'écologie de gauche, des rapports essentialiste à l'écologie, qu'on voulait s'en mettre à distance et porter, je sais pas, une forme d'écologie queer et sans frontières. Ça nous semblait important de le préciser, de l'expliquer. On voulait porter une position sur l'économie et pour qu'on se retrouvait dans une économie de subsistance, une économie de subsistance désirable, hein, pas de subsistance un peu ratatinée, mais une économie de subsistance et pas d'accumulation. Et on voulait préciser, alors là c'était encore moins simple, notre rapport à l'État et au caractère réforme-révolution. Du coup, on a fait 3 prises de position dans le bouquin. Il y a eu beaucoup discours médiatique et un discours gouvernemental autour des soulèvements de la terre. Le ministre de l'Agriculture, Darmanin, qui dit que c'est un mouvement qui s'attaque à des fermes, qu'on a un mouvement écologiste contre des paysans, que c'est un mouvement d'un petit groupe qui s'agirait de dissoudre et de faire disparaître. Et évidemment, le bouquin, il cherchait aussi à dire non, on est un mouvement paysan et écologiste. On ne s'attaque pas à des fermes, mais à des infrastructures toxiques qui font disparaître les paysans, qui empoisonnent les terres. On n'est pas un petit groupe, mais on a un mouvement de telle et telle manière, et voilà de la manière dont on se structure. Et dans le bouquin, on essaye de déployer tout ça. Et souvent, quand on sort un bouquin comme ça, on se dit « Ah, est-ce que c'est un texte manifeste ?» Et nous, on se dit « Ah oui, c'est un peu un manifeste qu'on explique nos hypothèses. » Mais en même temps, on s'est dit que quand on parlait de nos histoires collectives, ça ne pouvait pas être juste des énoncés péremptoires qui diraient « Il faut faire ci ou ça », parce que nous-mêmes, on était pris de pas mal de doutes et de perspectives critiques sur ce qu'on faisait. Du coup, le bouquin, il est autant fait d'énoncés parfois affirmatifs que de moments qu'on appelle des paradoxes. On dit « Ah, mais l'action directe de masse, est-ce que ça marche vraiment? Est-ce qu'on arrive à échapper à des formes de verticalité ou d'opacité? Comment c'est réappropriable ?» Ah, enfin, vous voyez, ce genre de considérations, donc on nomme des paradoxes, le paradoxe de l'activisme. À la fois comment on voudrait retrouver un ancrage et à la fois comment quand on veut réagir à la catastrophe, on va de plus en plus vite, on se parachute un peu trop partout. Et en fait, nous, on est pris par ces paradoxes, le paradoxe de la confrontation. On est pris par cet ensemble de choses. On voulait en parler dans le bouquin et on voulait aussi raconter des histoires parce qu'on se dit qu'un mouvement, nous, on se prend dedans parce que c'est des histoires et c'est des rencontres et c'est pas juste des affirmations théoriques. Voilà. On se disait aussi que vu que ce soir, on est à 10 jours de la date sur les bassines, qu'on aurait pu vous parler de béton, on aurait pu vous parler d'organisation, mais qu'on a 10 jours la date sur les bassines qui vraiment a à voir avec la question de notre rapport à pourquoi on pense qu'il faut démanteler le complexe agro-industriel, mais pourquoi ça ne suffit pas et qu'il faudrait aussi reprendre les terres. Et du coup, je laisse ma parole à ma camarade sur cet aspect-là qui va déployer un peu ça. Et puis ensuite, j'imagine qu'il pourrait aussi y avoir des questions sur d'autres aspects. Voilà.
C'était bien, mais tu parles beaucoup.
Venez, venez, camarades, aux bassines, là, aux bassines.
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 Pour faire le premier pas, la bassine, elle se videra.
Pour faire le premier pas, la bassine, elle se videra.
Le grillage qui l'enserre, la bassine, là, la bassine.
Le grillage qui l'enserre, la bassine. La bassine.
La pince le coupera, la bassine elle se videra.
La pince le coupera, la bassine elle se videra.
La pompe qui l'abreuve, la bassine là, la bassine.
La pompe qui l'abreuve, la bassine là, la bassine.
La meuleuse la coupera et la confe la volera.
La meuleuse la coupera et la confe la volera.
Le gendarme qui arrive aux bassines là, aux bassines.
Le gendarme qui arrive au bassin, là, au bassin.
La pierre le chasseur, la bassine, elle se videra.
La pierre le chasseur, la bassine, elle se videra.
L'irrigant qui la pleure, sa bassine, là, sa bassine.
L'irrigant qui la pleure, sa bassine, là, sa bassine.
Son maïs poussera pas, nous, on en rigolera.
Son maïs poussera pas, nous, on en rigolera.
Des bassines,
l'agriculture de merde, des bassines, là, des bassines.
On la désarmera, la FNSEA.
On la désarmera, la FNSEA.
Pour méfier de l'eau qui dort dans ces bassines, là, ces bassines.
Pour méfier de l'eau qui dort, les bassines, là, dans les bassines.
Quand elle débordera, qui sait ce qu'elle emportera?
Quand elle débordera, qui sait ce qu'elle emportera? Quand elle débordera.
La bassine, par les Tabanards, reprise d'une ronde du Quercy, évocation de la confrontation physique qui n'est qu'une des modalités d'action parmi tant d'autres dans les luttes de bassines non merci et des soulèvements de la terre. Des organisations où l'on réfléchit beaucoup avant d'agir, et aussi pendant et après l'action d'ailleurs. Alors pourquoi cibler les méga-bassines qui ne sont qu'un des rouages du complexe agro-industriel ? Explication lors de la suite de cette rencontre avec Mona et Nico, deux des co-auteuristes de Première Secousse, bouquin génial signé Les Soulèvements de la Terre.
On va vous reparler de la mobilisation sur les méga-bassines après, là, qui va avoir lieu dans 10 jours. Les méga-bassines, c'est vraiment un des chaînons du complexe agro-industriel. Et du coup, c'est une des parties qu'on développe dans le livre. C'est pourquoi s'attaquer et comment s'attaquer au complexe agro-industriel, mais aussi mieux le définir. Enfin, Nico, il parlait de fallait aussi se donner de la force et que souvent, on pouvait avoir un petit peu un sentiment d'impuissance face à ce qui nous assaille. Quand on dit démanteler le complexe agro-industriel, ça paraît un petit peu ambitieux. Enfin, vous voyez, on peut se dire, oui, bon, on va peut-être pas y arriver demain. Et du coup, je pense qu'il faut prendre ça à la fois comme un objectif de long terme et comme un horizon. Qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour s'attaquer au complexe agro-industriel ou pour que le complexe agro-industriel tombe ? Puisque on pense que c'est ça qui est vital aujourd'hui. Mais du coup, c'est à la fois voir comment on peut s'y prendre, bien le comprendre, et à la fois voir comment on peut s'arracher de nos dépendances à ce complexe. Et donc ça, c'est un travail de long terme. C'est pour ça qu'on s'attaque à cette question-là, même si en fait on voit bien que voilà, on va pas y répondre en un jour ou en une lutte sur les méga-bassines. Donc, qu'est-ce que le complexe agro-industriel pour nous d'abord ? Donc, on le décrit comme une arme de guerre qui est à la fois contre le vivant et contre la paysannerie. Donc, pour nous, c'est à la fois quelque chose qui est écocide, donc qui va vraiment s'attaquer à la biodiversité, s'attaquer à la nature, développer une sorte d'uniformisation et de standardisation de la production agricole, qui fait que voilà, il y a beaucoup moins de diversité de formes de vie dans ce qui se fait dans la production agricole. Et donc, c'est aussi une arme de guerre contre la paysannerie, à la fois en France, mais à la fois dans le monde, puisque via nos exportations massives, on met vraiment aussi à mal la paysannerie dans plein de pays du monde. En fait, c'est très clairement dit, enfin, les dirigeants de la FNSEA l'assument clairement depuis les années 50, qu'ils visent à une réduction, une éradication du nombre de paysans en France, et que c'est ça leur principal objectif, c'est de concentrer le foncier dans un minimum de personnes qu'ils peuvent contrôler par l'amont et par l'aval. Un objectif qui est assumé, que les patrons de la FNSEA disent, et qui donc s'accompagne aussi d'une baisse de l'autonomie du monde paysan et agricole. Aujourd'hui, je ne sais pas quelle connaissance vous avez du monde agricole, mais enfin, il y a quelques fermes qui subsistent et qui peuvent peut-être faire croire que notre imaginaire, en tout cas, il est toujours assez bucolique autour de la campagne et des fermes. Mais donc, ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est quand même que la majorité des exploitations agricoles en France, donc la majorité de la production, sont sous un phénomène qu'on appelle l'intégration, qui était déjà dénoncé par Bernard Lambert dans les années 70, qui est le fait que les fermes sont liées en amont et en aval au complexe agro-industriel. Donc c'est pour ça, notamment, qu'on appelle ça un complexe. Ça dépasse la question purement de la production agricole. C'est un ensemble de technologies, d'industries en amont, donc qui sont à la fois les semenciers, les vendeurs de pesticides, les vendeurs d'engrais qui agissent en amont de la production. En aval, il va y avoir les grands groupes agroalimentaires qui s'occupent de la collecte et de la distribution, mais aussi des lobbies qui vont appuyer sur voilà, quelles techniques mettre en avant, des organismes de recherche, des banques, etc. Et donc c'est tout ça qui est mis en place et qui en fait font que les paysans du coup sont à la fois coincés et à la fois partie prenante du complexe. Ce qu'on essaye de faire dans les soulèvements de la terre, c'est vraiment de faire comprendre la finesse des questions agricoles, à la fois dire oui, les paysans ne sont pas juste des anti-écolos bébêtes débiles qui mettent des pesticides partout, enfin l'ensemble de la paysannerie c'est pas ça, et à la fois faire comprendre aux écologistes la réalité du monde agricole, parce qu'on pense que souvent il y a trop une opposition un peu bébête qui se joue et qui est d'ailleurs là attisée extrêmement par l'extrême droite, hein. On voit que l'extrême droite vraiment fait dire aux agriculteurs voilà, regardez, la source de tous vos maux c'est les écologistes. Il faut vraiment passer au-delà de ça et à la fois faire comprendre aux écologistes que il y a une complexité du monde agricole et que du coup souvent on a du mal à trouver le gros méchant. Souvent il y a plein d'agriculteurs, ils peuvent paraître gros mais en fait ils sont intégrés donc pris aussi voilà dans des maillages complexes quoi. Et du coup pour vous dire un peu la réalité du coup de beaucoup de fermes aujourd'hui, c'est donc l'intégration. Donc par exemple, je vous donne un exemple très concret, des éleveurs par exemple de volailles ou de vaches. Donc ils ont juste le bâtiment, ils sont propriétaires du bâtiment. Mais en fait, les animaux ne leur appartiennent pas, ils vont recevoir leurs animaux, ils vont recevoir la nourriture de leurs animaux, ils vont recevoir la paille pour leurs animaux. Il y a des techniciens qui vont venir les voir pour leur dire bah là, voilà, tu mets tel produit sur tes bêtes, etc. Donc c'est ce qu'on appelle l'élevage hors sol, qui est critiqué, c'est-à-dire les animaux restent dans les bâtiments un certain nombre de mois ou de jours, et ensuite sont revendus à la filière. Donc à des grosses coopératives, par exemple comme Terena, Lactalis pour le lait, etc., etc. Les paysans, il y a un aspect confortable à ça, parce que c'est des sortes de salariés de ces filières-là, ils sont rémunérés pour leur travail, ils ne prennent aucun risque, donc c'est pour ça que c'est un aspect plus confortable pour eux aussi que voilà, s'ils étaient complètement indépendants. Et en même temps, voilà, ils sont aliénés, on va dire, à ces grosses entreprises-là. Voilà, leur métier, c'est juste faire le travail qu'on leur demande de faire. Mais c'est à ce prix-là qu'on a une si grosse production aussi, enfin de viande notamment, mais bref, je suis éleveuse, hein, je ne suis pas contre manger de la viande, mais c'est à ce prix-là qu'on a la consommation de masse qui permet quand même à une majorité de la population de n'être pas prise dans des dynamiques agricoles et paysannes, quoi. Et du coup, c'est pour ça qu'on dit que c'est un complexe et qu'il est étendu, et c'est complexe aussi réellement, parce que du coup, s'en défaire, ça veut dire travailler nos dépendances à bras-le-corps. Donc on pense que ce complexe-là, il ne va pas plier par une transition douce, il ne va pas plier par des réformes. Nous, on veut bien accompagner des demandes de réformes auprès de l'État, comme par exemple, on accompagne auprès de Bassinon-Mercier, de la Confédération Paysanne, la demande d'un moratoire sur les méga-bassines. On pense qu'il y a trop d'intérêts en jeu pour que l'État plie à ces endroits-là. Et donc, autant les réformes demandées, autant les alternatives vont être insuffisantes. Il faut que ça s'accompagne d'un rapport de force qui mène une offensive contre le complexe agro-industriel. Et donc, les méga-bassines, par exemple, donc quand on dit démanteler, c'est au-delà du geste de désarmer. Désarmer, c'est un geste. Donc voilà, il va y avoir une usine qui va être désarmée ou une bassine qui va être débâchée. Ça, c'est ce qu'on appelle un désarmement. Quand on dit un démantèlement, c'est vraiment un processus sur le long cours. Et en fait, c'est une succession de désarmements qui vont revenir où, en fait, on va opérer sur un même chaînon. Donc, par exemple, les méga-bassines, parce qu'on pense que, en fait, derrière, par exemple, les méga-bassines, c'est toute la céréaliculture intensive qui est en jeu à cet endroit-là. Et donc, c'est pour ça qu'on se dit, ah, ça va être à ce prix-là, le fait de revenir sur des enjeux et de s'y attaquer de plusieurs parts, que ça peut un peu mettre à mal l'agriculture intensive.
L'irrigant veut ton nom, mon ami, ton puits est ton ruisseau.
L'irrigant veut ton nom, mon ami, le puits est ton ruisseau.
Tout ce qui coule, il le convoite, il te lâchera jamais la nappe.
Le maïs est soif, il n'y a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soif, il n'y
a plus d'eau pour le ricard.
Ils ont fondé une COP, mon ami, d'exploitants qui écopent.
Ils ont fondé une COP, mon ami, d'exploitants qui écopent.
Ils intriguent, font des digues, sont une ligue qui nous fatigue, mais le maïs est soif, il n'y a plus d'eau pour le ricard. Ils parlent d'agribashing, mon ami, pour non, construire leur bassine. Ils se lamentent et ils couinent, mon ami, pour bâtir leur piscine.
Ils se lamentent et ils couinent, mon ami, pour bâtir leur piscine.
C'est la goutte d'eau, y'a plus que la vase. Plus c'est con et plus ça pavoise.
Le maïs est soif, y'a plus d'eau pour le ricard.
Le maïs est soif, y'a plus d'eau pour le ricard.
La coppe de l'eau nous pompe, mon ami, leur chaussée faut qu'elle rompe.
La coppe de l'eau nous pompe, mon ami, leur chaussée faut qu'elle rompe.
Tandis qu'ils grignent. Wesh mon ami, on taillera leur bâche.
Wesh mon ami, on taillera leur bâche.
Toute l'eau s'écoulera, nous on n'y touchera pas.
Le maïs sera tricard, on boira du vin de la Loire. Le maïs sera tricard, on boira du vin de la Loire.
Pour vous refaire très vite fait le topo sur les méga-bassines, mais pourquoi c'est un des chaînons clés du complexe agro-industriel, c'est que les méga-bassines, c'est vraiment une infrastructure qui s'appuie sur le ravage du bocage dans le marais Poitevin, mais aussi ailleurs, mais globalement sur une disparition de la polyculture élevage dans nos campagnes, sur l'éradication du bocage, sur le fait que des élevages plein air et de la polyculture élevage ont été remplacés depuis 50 ans par des grandes cultures. Et par des grandes cultures faites notamment pour nourrir des animaux qui sont hors sol. Les animaux ne mangent plus d'herbe, ils mangent uniquement des céréales qui sont produites ailleurs. Et donc, on est poussé à la rentabilité, à la production, etc. Et donc, les méga-bassines, elles interviennent à ce moment-là. C'est quand on a bousillé les ressources en sol et en ouvre. Il y a une érosion de la terre. On a drainé dans le marais Poitevin. On a asséché des milliers d'hectares de terre pour faire de la culture dessus, on a asséché les sols. Et donc, on se dit maintenant, ah mince, il n'y a plus assez d'eau, il faut remettre de l'eau sur ces sols-là. Et donc, la solution au lieu de en fait enlever les drains, au lieu de remettre des haies, au lieu de restaurer par une agriculture plus respectueuse du vivant, au lieu de restaurer les sols, on se dit ah bah mince, on va plutôt pomper dans les nappes phréatiques, mettre l'eau dans des méga bassines et puis hop pouf, remettre l'eau dans ces sols. Donc vraiment là il y a un ensemble de scientifiques de toute façon qui ont dit vraiment c'est pas la bonne solution et en plus les méga bassines avec les sécheresses, bon là c'est pas vraiment une année bonne pour dire ça, mais avec les sécheresses qui vont venir malheureusement, d'ailleurs moi je suis toujours plus inquiète des sécheresses que du fait qu'il pleuve trop, mais du coup avec les sécheresses à venir, les études montrent que les méga bassines 4 années sur 10 de toute façon elles pourront pas être remplies parce que même le niveau des nappes phréatiques l'hiver sera trop bas. Donc c'est vraiment voilà, des infrastructures qui juste veulent maintenir le complexe agro-industriel vraiment qui est à bout de souffle. Disons qu'il arrive au bout de ces contradictions, que ces contradictions sont renforcées par le changement climatique qui accentue en fait la crise. Le fait que les sols soient épuisés par les engrais, les pesticides, l'érosion, le fait qu'on a enlevé l'eau, plus le changement climatique conjugué à ça, ça fait que là, la seule méthode... La moins chère, on va dire, pour eux, c'est faire des méga bassines. Il y a un coût énorme que l'État ne veut pas prendre en charge de restauration d'une autre agriculture. Et là, ce qui est un peu embêtant avec les méga bassines, c'est que ça devient un peu un truc identitaire. Avec, bon, on en reparlera, mais avec le mouvement agricole et là, le RN qui vraiment dit « Ouais, si, on va faire ces méga bassines-là parce que les vrais agriculteurs, ils veulent des méga bassines. » Il y a une crispation du monde agricole sur cet enjeu-là, alors qu'en fait, c'est un outil qui ne va pas les aider. Mais du coup, il y a une espèce de crispation identitaire problématique qui se fait à cet endroit-là et qu'il faut qu'on essaye de déjouer absolument. Du coup, en montrant aussi que y a des agriculteurs qui refusent ce modèle-là. Ce qui nous paraît donc complexe quand on s'attaque au complexe agro-industriel, nos difficultés, c'est que derrière ce complexe-là, il n'y a pas une unité du monde agricole et il n'y a pas non plus une binarité où il y a les gros méchants et les petits d'un côté. Du coup, on a à faire tout un travail d'enquête pour bien identifier les cibles à chaque fois et pas faire n'importe quoi parce qu'en fait, justement, sur le monde agricole, il peut y avoir un renforcement des crispations identitaires si on s'attaque aux mauvaises cibles. Et donc, on a tout un travail d'enquête à faire. Là où c'est complexe aussi, c'est que derrière, il y a des travailleurs en jeu, il y a des habitants, il y a des paysans. Et du coup, en fait, notre objectif avec les soulèvements, c'est vraiment de faire avec ces gens-là et de ne pas faire un démantèlement sans penser, par exemple, la question notamment de qu'est-ce que vont faire tous les ouvriers du monde agricole, voilà. Et travailler aussi, nous, nos dépendances. Donc, ça veut dire être prêt à remettre en jeu nos habitudes, nos modes de consommation, nos modes alimentaires, etc. C'est un gros bouleversement auquel on pense qu'il faut se préparer dès maintenant. Comme voilà, il faut se préparer à ce bouleversement-là, s'y préparer dès maintenant, s'y atteler dès maintenant, on dit qu'il faut toujours combiner l'offensive, donc l'offensive contre le monde agro-industriel, et les alternatives. Et que ni l'un ni l'autre ne sont autosuffisants. Ça veut dire que les deux sont nécessaires et doivent marcher ensemble pour que ça fonctionne. Donc il faut qu'on combine un savoir-faire et un savoir-défaire. Et du coup, coordonner nos luttes contre l'agro-industrie à des mouvements de reprise de terre pour reprendre en main les moyens de production de notre subsistance. Voilà, donc démanteler le complexe agro-industriel, c'est aussi bien une perspective stratégique, un horizon, qu'une question technique de comment on fait sans le monde agro-industriel et comment on fait dès maintenant pour reprendre les terres. Et donc, il y a un chapitre dans le livre entier, une partie entière consacrée à reprendre les terres. Là, on est vraiment face à un moment charnière où, en fait, d'ici 2030, la moitié des agriculteurs partent à la retraite. Donc, il y a un changement structurel et massif de la propriété et de l'usage des terres qui est inédit. Et donc, là, ce qui se passe de manière insidieuse et de manière un peu invisible, c'est qu'en fait, il y a un accaparement des terres, il y a une concentration. Donc, l'accaparement, c'est un phénomène de concentration foncière aux mains de quelques-uns et de spéculation. Et il y a un chiffre qui est très parlant. Tanguy Martin, qui est une personne qui travaille à Terre de Liens, qui a écrit un livre, je ne sais plus comment il s'appelle, vert, un livre vert, comme ça. Et il dit il y a dans le monde 1% des fermes agro-industrielles qui occupent 70% des terres agricoles. C'est pour vous montrer l'ampleur du phénomène de concentration. 1% des fermes agro-industrielles occupent 70% des terres agricoles. Et ce phénomène de concentration massif s'accompagne d'une financiarisation de l'augmentation des investissements non agricoles, des investisseurs qui vont maintenant spéculer sur le foncier. Et en France, ce phénomène-là, il est, par rapport à plein d'autres pays européens ou plein d'autres pays du monde, il n'est pas du tout joué encore. C'est pour ça aussi qu'on pense qu'il y a quelque chose à faire. Le phénomène de concentration n'est pas du tout poussé à son terme. Il se joue en ce moment. Donc c'est pour ça que nous, on pense que c'est vraiment essentiel d'y aller maintenant. Mais donc pour nous, ce qu'il faut pour reprendre des terres, c'est déjà installer des paysans. On dit, voilà, il y a l'objectif dans le livre de l'atelier paysan, reprendre la terre aux machines. Ils disent, il y a 1 million de paysans. Il faudrait même qu'il y en ait plus. On se dit pas qu'il faudrait qu'il y ait toute la population urbaine qui devienne agriculteur. C'est pas ça, mais on voit là, il y a un petit décalage, quoi. Il y a 1% juste de la population qui travaille dans l'agriculture, enfin, avec les ouvriers agricoles, ça va faire du 2% peut-être, mais c'est extrêmement peu. Et c'est aussi soutenir les paysans en place, donc on ne fait pas d'illusions, c'est pas notre objectif non plus, on ne va pas avoir 50% de la France qui se remet à être agriculteur, agricultrice. On veut donc soutenir aussi les paysans en place, engagés dans l'agriculture paysanne. Voilà, mettre en place depuis chez vous, donc il y a des jardins ouvriers qui sont possibles en ville, des types d'agriculture collective. On sait aussi que les agriculteurs aujourd'hui vont pouvoir tenir parce que ils sont aidés par une population urbaine, des fois qui vient leur passer des coups de main. L'objectif avec les greniers locaux, avec les greniers des soulèvements de la terre, c'était ça aussi, c'était faire qu'il y ait des productions collectives. Donc par exemple des agricultrices, agriculteurs qui mettent des terres à disposition de personnes en ville qui, elles, peuvent venir faire, par exemple, un jardin du maraîchage et du maraîchage, après, qui va soutenir des luttes. Et donc, c'est quelque chose qui, à la fois, fait du lien entre le monde urbain et le monde paysan dont on a vraiment besoin aujourd'hui et quelque chose qui aide à soutenir des luttes et fait aussi qu'un monde urbain réapprend, en fait, des techniques agricoles aussi. Voilà, on pense qu'il faut réactiver vraiment l'héritage des paysans travailleurs des années 70, donc notamment en retrouvant des stratégies d'occupation de terre comme nous on a connu à Notre-Dame-des-Landes, mais qui sont vraiment trop rares parce que, bon, très dur à mettre en place, on pourra en reparler aussi, mais c'est vraiment retrouver un rapport de force dans l'usage des terres. Il y a plein de fois, les terres devraient aller à certains jeunes installés, par exemple, qui vont faire une petite agriculture, et en fait, le système de rang agricole donne la priorité, par exemple, tout le temps aux gens qui demandent les aides. Donc quelqu'un, par exemple, qui demande les aides mais qui fait un agrandissement sera prioritaire sur quelqu'un qui veut s'installer en bio mais qui ne demande pas les aides agricoles. Voilà, donc il y a tout un système aussi comme ça à revoir. Nous, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant comme action des soulèvements de la terre, c'était plutôt des actions, pas vraiment d'occupation de terre, mais des actions pour reprendre les fruits aux accapareurs, on a dit. Donc on a fait une super action, par exemple, dans le Var, où on a été récolter les raisins de Bernard Arnault. Les grands bourgeois adorent avoir des domaines viticoles. Bernard Arnault a plein de vignes. Bolloré aussi, oui. Nos adversaires, un peu comme ça, ont des domaines viticoles. Et du coup, on est allé vendanger chez eux une après-midi avec la Confédération paysanne du Var. Et c'était vraiment hyper enthousiasmant. On avait même envie d'en faire beaucoup plus. On s'était restreint à faire une petite surface. Et on avait envie d'en faire plus. Mais ça va très, très vite, en fait, de vendanger du raisin à plusieurs centaines, et on a pressé après le raisin sur place, etc. Donc voilà, ça c'est très joyeux, et des actions comme ça peuvent se multiplier. Il faut aussi donc multiplier les espaces d'auto-organisation, les espaces comme les greniers. Il y a aussi des réflexions sur la sécurité sociale de l'alimentation. Et une des choses qu'on défend, c'est aussi la mise en place de réserves foncières. Ça veut dire qu'il y a une urgence, ça veut dire qu'on n'a pas le temps d'attendre qu'il y ait plein de nouvelles vocations paysannes ou que plein de gens soient formés à l'agriculture et fait des stages pendant 5 ans, machin. C'est maintenant que ça se passe. Et du coup, il faut revendiquer la possibilité de réserves foncières. Ça veut dire quand il y a des fermes qui se libèrent et en plus qui sont trop grosses, il y a un gros problème en agriculture aujourd'hui. On doit acheter l'outil de travail des centaines de milliers d'euros. Donc il y a un endettement forcé de toutes les générations qui s'installent en agriculture. Et ça, il faut vraiment faire quelque chose qui amène à des systèmes de production après, qui ne sont pas forcément ceux qu'on souhaitait au départ. Et du coup, il y a un besoin de restructuration des fermes et un besoin aussi de geler les terres des fois et de dire, donc cette ferme-là doit être transmise. En fait, on va faire un gel des terres, on va faire une réserve foncière. Ça ne veut pas dire on laisse les terres en friche, mais ça veut dire, en fait, il y a des organismes qui vont s'occuper des terres le temps que soit la ferme soit restructurée et puisse permettre une installation, par exemple, de 5 personnes au lieu d'une. Et on trouve, en fait, des jeunes installés, enfin, jeunes ou pas jeunes, mais voilà, que, en fait, ça n'aille pas à l'agrandissement. Enfin, et je dis à l'agrandissement, ça peut être bien de consolider des fermes. Mais là, on est réduit à des fois des fermes qui font des milliers d'hectares. Voilà. C'est fini pour moi. C'est pas tout.
Juste dire un mot sur le fait que là, on est en ville. On parle beaucoup de paysannerie, de choses qui se passent à la campagne. Et en fait, On n'est pas un mouvement rural, on est un mouvement aussi urbain. Enfin, je veux dire, une partie des gens qui interviennent déjà sur les actions des soulèvements de la terre, c'est des gens qui vivent en ville. Une partie des actions qu'on a menées, le siège de Monsanto à Lyon, il est à Lyon, en ville. On a mené des actions en périphérie urbaine. Sur la Farge, quand les gens viennent sur la 69, c'est aussi beaucoup de gens qui viennent des villes et peut-être vont habiter quelques mois dans une ZAD ou venir sur telle ou telle manif. On n'est pas en train de se dire le nouveau sujet révolutionnaire, c'est la paysanne ou le paysan. Et pour autant, le fait qu'on soit aussi un mouvement rural, ça prend une résonance particulière, vous voyez, avec les, là, ce qui se passe avec le RN, le côté de Halle, la gauche est dans les villes, et puis les campagnes sont à l'extrême droite, ce qui est très binaire dit comme ça, mais qui est une partie de la réalité. Et pour nous, le fait d'essayer de penser des mouvements qui interviennent sur les territoires ruraux, mais aussi qui y vivent, parce qu'en fait, là, on parle aussi beaucoup d'actions, mais en vrai, la question de la reprise de terre, c'est la question d'être présent sur ces territoires, d'avoir des veilles foncières, des gens qui appuient, des gens qui s'installent, des gens qui vivent ou en tout cas font des allers-retours à la campagne. Et en fait, ça semble être quelque chose de majeur de pas laisser les campagnes à l'extrême droite ou ne pas laisser croire qu'elles seraient parties de ce côté-là. Et nous, on peut pas nier qu'à des moments, les actions qu'on mène, elles participent des fois de renforcer des clivages. En fait, c'est ce que tu disais sur les bassines. En fait, des fois, on a mené des actions qui fait qu'il y a un camp qui se renforce et de manière identitaire qui fait ben, nous, on est pour les bassines. Mais on ne fait pas que ça. Et si c'est que ça, ça ne marche jamais. Des actions qui feraient que renforcer des clivages, on a besoin à des moments de marquer des clivages. Mais en fait, les clivages, tu ne peux pas juste rester dans un rapport frontal. Il faut retrouver quelque chose qui fait que t'es irrigant, t'habites dans un village des Deux-Sèvres, bah peut-être à un moment donné c'est plus pareil depuis les mouvements anti-bassines, parce qu'avant plein de gens savaient pas trop ce que c'était, et puis là ça s'est beaucoup beaucoup discuté, et puis du coup tu te sens un peu moins à l'aise d'être participant à la COP de l'eau, de participer à la bassine, parce que tes voisins peuvent te prendre à partie. Mais en fait, ce qui fera qu'on va pas en rester là, c'est aussi que des gens soient là, soient sur le terrain, parlent, y compris avec les gens qui sont les irrigants, et les renvoient pas juste à la position de l'adversaire. Voilà, en tout cas je voulais plaider pour dire on n'est pas un mouvement rural, mais pour autant, la question de ce que c'est d'intervenir politiquement dans ces territoires-là, dans lesquels nous, on est venus habiter alors qu'on était des villes. Enfin, je veux dire, nous deux, on vient... Et en même temps, on a tous les deux été pris comme plein d'entre vous. On a grandi dans des familles qui avaient des paysans et des paysannes dans nos familles. Quand on est arrivé à la ZAD, je pense qu'on est arrivé à Notre-Dame-des-Landes, on est arrivé, je pense, de manière très parachutée, avec tout un tas de visions d'urbains. Et quand c'est des urbains qui viennent donner des leçons aux gens à la campagne, ça marche jamais. Mais quand c'est des urbains qui, à un moment, arrivent de manière un peu plus modeste et apprennent de ce qui se fait, de ce qui s'échange à la campagne, et restent pas dans ce truc de juste, allez, on va faire une manif bassine de temps en temps, il faut pas que ce soit que ça. Et ce truc-là, il va devenir majeur, quoi, essentiel. Le fait de qu'est-ce qu'on fait politiquement ensemble à la campagne, même si on est dans les villes, sans trop d'arrogance.
Juste pour vraiment préciser le fait que les études montrent, enfin, ce qui fait l'opposition campagne-ville dans l'électorat du Rassemblement National, c'est plus des questions de classe, de l'appartenance à une classe sociale ou à un milieu que campagne-ville. Il se trouve que à la campagne, il y a majoritairement plus des populations ouvrières ou des petites classes moyennes, etc., ou des milieux, enfin bref.
Le livre, il est hyper riche de plein de références à des luttes du monde entier et puis de différents siècles. On va au Burkina Faso, on va au Kenya, on va au Mexique. Il est question du syndicalisme révolutionnaire et de l'autonomie italienne. Donc on sent que tous ces mouvements ont inspiré les réflexions qui se retrouvent dans le livre. J'ai été interpellé à un moment où vous écrivez « Nous naviguons entre les insuffisances de l'autonomie diffuse, les dangers du léninisme et l'étroitesse de vue du réformisme ». Avec les références aux luttes passées que vous citez, l'expérience des luttes que vous avez pu avoir sur les dernières années à Notre-Dame-des-Landes et ailleurs, l'insuffisance de l'autonomie diffuse, les dangers du léninisme, l'étroitesse de vue du réformisme, on sent bien que dans les composantes qui participent aux actions des soulèvements, bah, y a tout ça. Du coup, comment cette ligne de crête, elle se matérialise ou elle arrive à fonctionner ?
Bah, c'est ce qu'on essaye de dire un peu dans la partie organisation. On pourrait le prendre par plein d'endroits, quoi, mais je vais peut-être le dire avec un exemple historique. Moi, à un moment donné, je me suis beaucoup intéressé à la question de l'autonomie italienne parce qu'on connaissait beaucoup mai 68 en France. Puis il y avait un mai 68 qui avait duré 10 ans quelque part et qui avait été très différent et qui était dans le pays d'à côté, en Italie. Et je me suis pas mal intéressé à l'histoire des organisations autonomes. Et le fait que c'était des organisations qui étaient pour le coup vraiment basées, prises dans le monde ouvrier, même s'il y avait des jeunes déclassés et des étudiants et étudiantes dedans, mais c'est des organisations qui sont nées de l'histoire marxiste, ouvrière, ce qu'on a appelé l'opérisme. Et ces organisations, elles se donnaient un horizon révolutionnaire, Elles souhaitaient être des organisations de masse, c'était le cas de l'OTA Continua, elles étaient très structurées, des fois je pense beaucoup trop verticales pour ce que seraient nos préoccupations légitimes d'aujourd'hui et nos regards critiques sur la verticalité, mais c'est des organisations qui ont existé, qui ont poussé un mouvement avec un horizon révolutionnaire, des modes d'action parfois très conflictuels, mais qui ne reniaient pas du tout la nécessité d'obtenir des victoires, vous voyez, y compris syndicales, concrètes, pratiques, sur le temps de travail, sur les salaires, sur un certain nombre de victoires d'étape. Et ça, ça faisait partie aussi du champ révolutionnaire. Et c'était pas vu comme l'un ou l'autre. C'était pris dans un processus commun. Nous, dans la partie organisation, on se dit, il faut retrouver un peu ça, quelque chose qui mette pas ces plans en opposition, mais qui les prenne ensemble. Et la partie, elle commence en disant, en vrai, nous, la gauche, je sais pas quoi, on est orphelin de deux modèles. C'est ce type-là, Rodrigo Nunes, qui a écrit Ni horizontal ni vertical, c'est un bouquin en anglais, là, récemment. Il dit, on a une double nostalgie. La nostalgie de 1917, qui a été le grand modèle avec l'avant-garde, le parti, la verticalité, le machin. Puis là, les gens font, waouh, catastrophe. Enfin, catastrophe, pas que, c'est très rapide de dire ça, mais en tout cas, à un moment, il y a eu des prises de distance assez évidentes avec ce modèle-là. Puis il y a eu le modèle mai 68, autogestionnaire, moléculaire, le réseau, etc. Le sujet ouvrier qui éclate en plein de sujets. Puis ce modèle-là aussi, on a vu qu'il finit dans un truc un peu, soit qu'il se prend un mur, avec je sais pas, la lutte armée d'un côté et puis de l'autre tout cet éclatement du sujet des révolutionnaires qui finit dans un devenir très libéral dans les années 80 et puis où l'horizon révolutionnaire se perd très clairement. Puis à un moment on part de ces deux faillites qui de manière binaire on pourrait dire avec un côté un modèle vertical l'avant-garde, le parti, de l'autre le réseau. Et nous, on dit, bon, en fait, l'idée n'est pas de redésigner quel serait le bon, mais de se dire, il faut sortir de cette double nostalgie, il faut sortir de ce sentiment de double impasse et essayer d'avoir peut-être un regard aussi moins binaire sur les avantages et les désavantages de ces modèles, essayer de retrouver des formes d'organisation conséquentes qui vont aller puiser dans un certain nombre d'héritages politiques, dont ces deux-là, l'autonomie italienne, un certain nombre d'autres, et on essaye un peu de les mettre à jour, parce que nous, ils nous ont aidés quoi, dans notre histoire.
Juste un autre exemple dans le livre pour un peu décrire ce problème-là, c'est on dit on est pris entre les mâchoires d'une tenaille qui piège quiconque. Non, on essaye de pas être pris justement, mais bon. Entre les mâchoires d'une tenaille qui piège quiconque s'engage dans la contestation de l'ordre établi. Et vous voyez, la mâchoire numéro 1 de la tenaille, c'est la pensée que les États-nations n'organiseront pas la sortie du capitalisme industriel parce qu'elles ont trop de liens et d'intérêts avec ce capitalisme-là. Et la mâchoire numéro 2, c'est de l'autre côté que les expérimentations, les alternatives et les luttes dispersées restent marginales ou échouent, enfin, ou sont insuffisantes. L'enjeu, c'est de se tenir sur cette périlleuse ligne de crête, d'échapper à l'une mâchoire comme à l'autre, en veillant à n'être ni écrasé ni récupéré. Et du coup, on dit, on lit, parce que moi j'aime bien ce passage, c'est le passage que je voulais vous lire, alors ça tombe bien. Nos ondulations empruntent par là même au réalisme politique de la gauche institutionnelle, au sérieux révolutionnaire des marxistes léninistes, à la défiance d'État et à l'imagination des autonomes. Il n'est pas certain pour le moment que ce sillage dessine une stratégie unifiée. Une fois encore, affirmons que le plan se dégage de l'agir et non l'inverse. Au stade actuel du mouvement, nos différentes sensibilités, convictions et traditions se combinent en trois registres d'action distincts. Le premier consiste en des attaques situées contre les infrastructures de la dépossession, pensées en termes de filières à démanteler. Le deuxième consiste à développer ce que nous avons appelé dans ce livre des contre-pouvoirs autonomes ou des institutions mineures qui travaillent nos dépendances vis-à-vis des industries et de l'État. Le troisième consiste à appuyer un réformiste radical défendu par nos alliés les plus proches, collectifs d'habitants et syndicats paysans, qui exigent des transformations immédiates de leurs conditions de vie et de travail.
Voilà, ce qui peut, pour certains, donner l'impression qu'on est fourre-tout et opportuniste, et pour d'autres, donner l'impression qu'on a une attention à la composition et une ouverture à différents plans stratégiques et qu'on essaye de les concilier. Et puis voilà, ça a ses avantages et ses inconvénients, mais en tout cas, nous, c'est de là qu'on part.
Et voilà les amis, c'est ici la fin de la première partie de cette rencontre avec Mona et Nico, deux des auteuristes de ce livre écrit à plusieurs et signé « Les soulèvements de la Terre ». Un bouquin important, pertinent et facile à lire, tant il est bien écrit, avec intelligence et modestie. Publié aux éditions La Fabrique. On continue à échanger autour de Premières Secousses au prochain épisode de cette émission. Nos invités répondront aux questions du public rassemblées au bateau ivre par la librairie Les Temps Sauvages. En attendant qu'on se retrouve sur votre radio préférée, vous pouvez réécouter cette intervention sur notre site polemixetlavoixoff.com. Ce n'est qu'un combat, continuons le début. Salut.